Merci, monsieur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Chers amis, bonsoir. Ce que me tient à cœur ce soir, c'est de rendre plus clair, plus transparent, quelques mécanismes communicatifs qui jouent dans la communication en général et dans la communication entre femmes et hommes en particulier. Pour moi, prendre conscience de quelque chose, voir quelque chose plus clair, c'est le point de départ si on veut améliorer quelque chose dans sa vie, toujours. Mais il est évident que voir plus clair, ça ne veut pas encore dire qu'on a déjà les remèdes en main. Il reste pour cela avoir trouvé, développé les remèdes, il reste encore tout un boulot. Par exemple, développer un autre comportement qui peut ou puisse remplacer un comportement qu'on a ici jusqu'ici. Développer un langage qui va de pair avec une nouvelle conscience. Et enfin, aussi apprendre à vivre avec des sanctions sur lesquelles il faut compter à chaque instant de la vie, où on essaye d'améliorer un comportement. Permettez-moi quelques remarques préliminaires. 1. Les résultats et observations que je vous raconte ce soir sont faites dans mon champ d'activité, c'est-à-dire la recherche scientifique sur les échanges oraux. Deuxièmement, pour simplifier, je ne vous donnerai pas ce soir les références aux nombreux travaux sur lesquels je m'appuie. Si cela vous intéresse, vous le trouverez dans la version imprimée de mon exposé. Troisièmement, quiconque connaît la littérature de ce domaine sait que je ne peux donner que des fragments. Troisième, remarque, il est évident que les environnements sociaux différents empêchent de considérer l'ensemble des résultats comme comparables à tous les points de vue. Je ne peux pas entrer dans tout cet détail comparatif, ni dans les questions qu'il soulève. J'assume consciemment ce risque. Dernière remarque, il faudrait ici parler de la socialisation des petits-enfants et de son influence sur les attitudes communicatives ultérieures. Il faudrait montrer que presque tous les comportements que je décrirai proviennent d'un apprentissage qui commence déjà dans la toute petite enfance avec les premiers jours de la vie. Mais normalement, ni les femmes ni les hommes n'ont plus conscience de ses racines. Faute de temps, je me concentrerai donc sur les conséquences visibles à l'âge adulte. Je vais d'abord aborder le style de communication orale des femmes du double point de vue de l'expression langagière et puis de l'expression de la voix, donc de la façon de parler. Ensuite, je vais aborder l'attitude communicative dans les groupes mixtes du quadruple point de vue 1, du choix et de la maîtrise des sujets, 2, des interruptions, 3, des confirmations minimales et 4, de l'influence possible sur la conduite d'une discussion et sur ses résultats. La recherche montre à multiples reprises que les femmes recourent souvent à des moyens langagiers qui atténuent une affirmation ou en limitent la portée. Parmi les plus courants de ces moyens langagiers, il y a l'usage fréquent des conditionnels, des tournures limitatives et puis des incises. Je vais vous donner un exemple pour clarifier cela. L'usage fréquent des conditionnels. Un homme dira facilement « on peut laisser tomber cette idée », tandis qu'une femme préfère souvent de dire On pourrait laisser tomber cette idée. Les tournures limitatives, ce sont des tout petits trucs qu'on enchaîne un peu partout, comme un peu, peut-être, probablement. Notre phrase de tout à l'heure donnera « il faut peut-être revoir cela ». Une combinaison des conditionnels et des tournures limitatives donnerait « il faudrait peut-être revoir cela ». Il y a déjà deux limitations qui restreignent la portée de ce qu'on a dit. Les incises sont des tout petites formules, souvent en appendice d'une affirmation, du type « il faut revoir ça, je pense ». Alors, je pense, souvent chez les femmes. Et si on a une combinaison de tous les trois, conditionnelle, tournure limitative, incise, ça donne « il faudrait peut-être revoir ça, je pense ». Soit une de ces limitations, soit une combinaison de plusieurs, apparaissent jusqu'à 10 fois plus chez les femmes que chez les hommes. En atténuant, on laisse un espace de liberté au partenaire. On peut toujours observer dans les situations de communication, si on laisse un espace de liberté, c'est quelqu'un d'autre qui s'en sert, qui le prend. Donc, les femmes ont l'intention de laisser un espace de liberté et d'éviter d'imposer leur propre opinion. Mais ça, c'est un côté de l'affaire. Les faits, c'est tout autre. Ce qui est perçu par les autres, c'est qu'on communique comme femme un manque d'assurance, qu'on lance les mots comme une tentative hésitante. On peut observer alors que les tentatives hésitantes ne sont pas ou peu écoutées. Mais la perception des autres, c'est qu'il y a là une femme qui a un état émotionnel de l'incertitude. Dans notre société concurrentielle, les n'en parlent normalement pas des états émotionnels, mais leur effet reste subliminal, mais puissant. Mais les restrictions que j'ai nommées jusqu'ici ne sont pas les seuls moyens que les femmes utilisent pour atténuer leur affirmation. Souvent, les femmes se dévalorisent aussi et invitent même leur partenaire à les critiquer. Commencez une phrase par, et vous allez souvent entendre de telles formules, par « ce n'est peut-être pas si important, mais » c'est implicitement se dévaloriser, parce que ce n'est pas important ce qu'on va dire. Et en même temps, on peut observer que le reste de l'affirmation n'est plus écouté. Un autre exemple. Un homme dit à une femme, « Mais écoute, tu comprends rien à l'argent. » Sa première réaction est peut-être, « Quelle sottise !» Après un moment, il dira, « Vous entendez facilement. Or, mais tu sais bien que j'étais jamais forte en calcul. » Tandis que quelle sottise marque bien le point de vue de la femme et reproche le rejet qu'on lui a été fait. La deuxième remarque est à la fois une dévalorisation de soi et une excuse. Dans ce cas aussi, la perception des autres, c'est là une personne qui parle, qui a un manque d'assurance, un manque de valeur, un manque de sérieux, un manque d'intelligence. Ce style a aussi été nommé l'angle de l'excuse. Ce sont surtout les femmes qui s'en servent. Les hommes, en revanche, recourent au style d'explication. Si une femme dit à un homme, par exemple, « Tu comprends rien à mon boulot », un homme va vous facilement expliquer, « Mais oui, mais c'est parce que ça ne m'intéresse pas. » Il ne s'excuse pas, mais il explique. En s'excusant, on s'ouvre des possibilités de retraite, c'est vrai. On ne s'engage pas, c'est toujours vrai. On esquive des attaques, encore vrai. Mais celle ou celui qui s'excuse sans cesse refuse aussi de la responsabilité de ce qu'elle ou il vient de dire. Après quoi, c'est bien sûr l'autre qui prendra les décisions. Une autre différence sur laquelle j'aimerais bien encore attirer votre attention, ce sont les phrases incomplètes et les tag questions. Les phrases incomplètes signalent qu'une réflexion n'a pas été tout à fait mûrie ou qu'on la recommence plusieurs fois d'une autre manière avant de la poursuivre. Les phrases incomplètes, je vous donne un exemple. Dans une situation de conflit, elle dit « Mais tu sais bien que j'ai quelques difficultés avec ta mère, mais… » Et elle laisse en suspense la pensée. Tout de suite après un moment, lui, il dit « Mais tu n'as… » Mais, il reprend le « mais ».« Mais tu n'as aucun intérêt à t'arranger… non, de t'arranger avec elle. » Vous avez remarqué ce qui s'est passé? La phrase incomplète offre au partenaire un grand espace de liberté pour terminer la réflexion et en même temps en l'adapter à son propre univers. Donc, c'est justement là que la discussion peut s'orienter dans une direction contraire aux intentions de la femme. Les tag questions. Ce sont des pré-formules on apprend dit souvent, de ce type. Tu ne penses pas? Non? D'accord. Un homme dira, probablement, il y a toujours aussi d'autres, mais probablement, ça peut attendre jusqu'à la semaine prochaine. Les hommes préfèrent des affirmations directes qu'ils finissent avec une cadence conclusive marquée. Une femme dans la même situation dira peut-être « ça pourrait peut-être attendre jusqu'à la semaine prochaine, vous ne pensez pas ?» Les femmes utilisent fréquemment des tag questions et en plus laissent souvent la mélodie en suspens. Ce qui crée un climat d'incertitude. En plus des tech questions, les femmes posent encore trois fois plus de questions que les hommes. Chacun sait que les questions servent à obtenir une réponse qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Elles invitent le partenaire à donner cette réponse. C'est pourquoi on dit dans certaines organisations, questionner, c'est mener la barque. Pour les femmes, c'est vrai d'une certaine manière. Seulement, les questions ne contribuent pas à la décision, elles servent plutôt à maintenir la discussion à flot. C'est aussi une des fonctions des tech questions. Elles permettent de commencer ainsi que de relancer une discussion. Tout ce moyen langagier de restriction, de dévaluation, de trivialisation sont constamment exercés durant la socialisation des petites filles et sont perçus comme appropriés pour les femmes. Dans toute l'attitude communicative de la femme, ils passent pour polis parce qu'ils sont indéterminés. Ce style féminin est ressenti comme chaleureux, c'est bien, hein? Mais en même temps, il est ressenti comme inefficace. Les femmes sont ici enfermées dans un dilemme. Parler comme une femme, c'est manifestement un obstacle, surtout lorsque les femmes montent au niveau supérieur de l'échelle et qu'elles entrent en concurrence avec des hommes. Si elles restent fidèles à ce style, elles doivent compter avec des sanctions négatives. On ne les écoutera pas. ou on la jugera incapable d'assumer les fonctions d'autorité. Si en revanche, elle intègre ce style, ce langage, donc les éléments du pouvoir, elle n'échappera pas davantage aux sanctions négatives, car, je cite, « Dès qu'une femme adopte un style masculin, elle sera également vue et jugée comme inefficace. » C'est le langage de l'excuse qui est jugé, je cite toujours, « C'est le langage de l'excuse qui est jugé approprié pour les femmes. » Mais ce langage invite le partenaire à nous contrôler, à superviser nos actes. Ce langage cherche l'accord de l'autre. Fin de la citation. Mais comment confier des responsabilités à des gens qui demandent qu'on les contrôle? Des gens qui ne sont pas majeurs et partant impropres à des fonctions supérieures. Il est malheureusement manifeste que nous autres femmes sont contraintes de douter de la portée de la force communicative des femmes. Non qu'elle n'ait pas cette force, mais les attitudes culturelles suivent l'évolution de bien loin. N'a-t-on pas montré que les femmes sont jugées nettement moins efficaces alors qu'elles disent, dans un même contexte, exactement la même chose qu'un homme? Mais laissons de côté les moyens purement langagiers. À présent, j'aimerais bien que vous preniez garde du rythme de votre respiration. Je vous laisse quelques secondes. Ça y est ? Dans cette situation, vous avez à peu près le même rythme que moi. La communication est donc beaucoup plus que de placer quelques mots ou phrases quelque part, si on a de la chance, dans l'oreille de l'autre. Il y a des liens assez étroits, par exemple, par la respiration. Et si ma respiration dans cette situation fait difficulté pour vous, il est probable que votre écoute en sera troublée. La respiration, c'est un point de contact entre le « nous » et le monde qui nous entoure. Elle exprime les dispositions de toute une vie, ainsi que celles nées de l'instant, du maintenant. Nées du maintenant, c'est-à-dire nous réagissons immédiatement à tout événement qui se produit. Songez aux métaphores respiratoires et aux émotions qu'elles incarnent. Dans les situations d'angoisse, par exemple, et de stress, la respiration devient courte et superficielle. Elle signale donc un contact réduit avec le moi, entre le moi et le monde. Ou alors, connaissez-vous des situations où l'effroi vous a coupé le souffle? C'est justement là où nous renonçons à chaque contact entre le « nous », entre le « moi » et le monde qui nous entoure. Pensez finalement au grand soupir de soulagement et à la détente qui l'entraîne. Et justement au moment où nous avons retrouvé l'équilibre entre nous et le monde qui nous entoure. La parole, ma parole maintenant, doit s'appuyer sur le souffle de l'expiration. C'est grâce à lui que se forme la voix. Mon intention était de détourner votre attention des moyens purement langagiers à l'acte de parole. Et là, la voix et son expression sont d'une importance primordiale. Mais normalement, nous ne sommes pas conscients de ces affaires-là, donc ça reste inconscient. Les voix qu'on écoute avec plaisir ou qu'on n'écoute pas, et la manière dont on les écoute avec confiance, avec méfiance, avec antipathie, avec sympathie, sert à la classification sociale et détermine les jugements sociaux de valeurs stéréotypées, soit positives, soit négatives. On considère aujourd'hui comme certain que seulement 30% de l'effet communicatif est dû aux mots et aux phrases, donc à l'action verbale. Les 70% qui restent sont dus à l'action paraverbale, donc à la voix, aux pauses, et à l'action extraverbale de la mimique et des gestes. Ces aspects sont donc alors étroitement interdépendants. Ou alors, imaginez-vous un être fondamentalement bloqué qui fait des gestes, grands gestes d'ouverture, probablement pas. Un être bloqué, fondamentalement bloqué, fera aussi des gestes étroits, soi-disant bloqués. Et le visage, en même temps, sera probablement pincé, surtout au commissure sur des lèvres, ce qui entraîne que tout l'intérieur, tout l'espace intérieur de la bouche sera resserré aussi, ce qui forme une voie pincée et étroite. Je vous donnerai quelques détails explicatifs avant d'entrer en matière sur les voies féminines et les voies masculines. La voix, en général, comprend à peu près 2 octaves, peu plus, peu moins, c'est peu important maintenant. La voix normale de la femme se place en 1 octave au-dessus de la voix normale masculine. Chez femmes et hommes, la voix tente à monter 1 octave sous le coup de l'émotion. Il s'ensuit d'abord que le registre normal de la parole normale de la femme coïncide exactement avec le registre émotionnel de l'homme. D'où ces stéréotypes que les femmes sont toujours émotives quand elles parlent. L'octave émotionnelle féminine est normalement hors de la portée de la voix masculine, d'où encore d'autres stéréotypes à des voix jugées aigres et pointues, ou encore à des voix d'oiseaux, caractéristiques de certaines femmes qui utilisent surtout l'octave émotionnelle pour parler. Au-delà de ces données physiologiques, il y a toujours aussi des données culturelles qui contribuent à former les voix. Les femmes de la classe moyenne restent souvent attachées au temps bien élevé du XIXe siècle. Ce temps est marqué par une respiration superficielle qui donne une voix détimprée, plutôt douce et surtout déplacée vers l'aigu. De nos jours encore, ce type de voix est jugé approprié pour les femmes. Il se transmet de génération en génération par un apprentissage par identification. De plus, beaucoup de femmes en sont restées à leur voix prépubertaire par refus du rôle sexuel féminin. Il faut ajouter peut-être encore ici que le registre de la voix parlée se place toujours dans l'octave inférieure des 2 octaves du diapason et plus précisément, il comprend à peu près 5 tons dans le bas de l'octave inférieure. Les hommes signifient leur autorité en utilisant que 3 tons de leur voix normale. Il crée ainsi l'impression de parler sans expression ni émotion, activant du même coup les stéréotypes d'objectivité et d'information. Les femmes, en revanche, ont l'habitude d'utiliser 4 ou 5 tons de la voix normale. Elles paraissent donc plus expressives, mais font guère sentir de l'autorité et paraissent subjectives, émotive et frivole. D'ailleurs, le cliché voix féminine, c'est émotionnel, frivole, peut être observé dans toutes les situations. Les médias allemands, par exemple, préfère faire annoncer des catastrophes par des voix féminines. Je cite, les catastrophes perdent la moitié de leur horreur quand elles sont annoncées par une femme. L'explication officielle veut que les femmes, les voix féminines apaisent. La voix féminine signale donc qu'il n'est pas nécessaire de prendre le message au sérieux. Les maîtres des médias aux États-Unis s'en ont aussi rendu compte. Là-bas, il n'y a presque pas, très peu, de femmes reporters. L'idée est, je cite, que les gens ne veulent pas des voix féminines quand il s'agit de questions sérieuses. Fin de la citation. Qu'est-ce que cela signifie, sinon que les femmes ne sont pas faites pour les questions sérieuses? Et que, lorsqu'il s'agit de questions sérieuses, soit elles servent d'alibi, soit elles sont évacuées. De plus, le diapason féminin fait penser à l'enfance et à son statut inférieur, à sa relative impuissance et à sa dépendance des adultes. Encore dans les années 70, on a conseillé aux femmes qui voulaient monter en position d'autorité, de responsabilité difficile, de parler plus fort et de s'habiller de manière à suggérer le succès. Cela suffirait à entraîner la réussite. Devant l'échec de cette tactique, on a commencé dans les années 80 de leur donner le conseil de cultiver une voix plus grave pour communiquer à un sens d'autorité et de recourir à une voix qui porte mieux. Comme nous l'avons vu, cela contredit très précisément la socialisation de la femme dans les couches sociales moyennes. Leur règle, aujourd'hui comme hier, c'est « parle doucement et ladylike ». On a pu dire, non sans ironie, que la femme dans une position de cadre doit d'abord surmonter son plus grand handicap, son être femme sociale. Ce que les femmes communiquent par leur voix rappelle donc sans cesse des stéréotypes que nous interprétons généralement comme signe de statut inférieur. Or, à cela s'ajoutent des signaux paraverbaux et extraverbaux du statut qui, dans une situation de communication avec de fortes différences hiérarchiques, sont aussi subtils qu'efficaces. L'interlocuteur supérieur est par exemple assis dans une position plus détendue. Il sourit peu et signale une attention réduite. Le statut inférieur se signale par une attitude plus tendue du corps tout entier, une attention accrue et le sourire plus marqué. Les femmes dans les situations de communication sont toujours moins détendues et plus attentives que les hommes, même si elles jouissent en fait d'un statut d'égalité. Ces deux éléments, la tension et l'attention accrue, suffisent à tendre davantage les muscles dans la gorge, donc à faire monter la voix vers l'aigu. Avec cela, les femmes sourient plus que les hommes et gardent un contact visuel plus constant. Elles ont besoin de regarder l'autre pour savoir si leur comportement est jugé correct. Cette forme du contact visuel est pratiquée en général par la personne de statut inférieur. Il est de toute manière probable que celle ou celui qui écoute incline plus à regarder la personne qui parle que le contraire. On cherche ainsi à voir, par exemple, les signaux extraverbaux qui marquent le moment où l'autre est disposé à renoncer à son rôle de locuteur. Le sourire, en cas d'inégalité de statut, indique l'infériorité, montrant que la personne inférieure accepte son statut et respecte celui de l'autre. Les femmes sourient davantage. Même quand elles occupent un niveau hiérarchique identique ou même plus élevé, donc elles sourient davantage, beaucoup plus que les hommes avec lesquels elles parlent. Ce sont ces attitudes profondément enracinées dans l'inconscient qui sont visées quand on dit que le premier handicap que les femmes doivent surmonter est leur être femme sociale. Le message subtil lié à la répartition des statuts font croire que les femmes ont un statut inférieur indépendamment de leur statut réel. On a montré que la compétence professionnelle des hommes, est estimée plus haute que celle des femmes, et cela déjà exclusivement à cause de l'expression de la voix. Tant qu'une femme occupe effectivement une place inférieure dans l'échelle, sa voix ne semble pas faire vraiment obstacle. Le supérieur qui parle avec elle, elle la juge compétente car il est sensible au témoignage de sa voix. Tout se passe comme si elle n'était pas ressentie comme concurrente, comme si celui qui portait ce genre de jugement pensait qu'elle est à sa place. C'est en situation d'égalité que les femmes sont piégées. Si elles cherchent à parler avec la voix que leur culture leur juge idéale d'un point de vue général, à savoir la voix plus grave, masculine, elles sont menacées d'un conflit de rôle. Du même coup, elles ne correspondent plus aux normes idéologiques de leur société réservées aux femmes. Elles seront donc encore victimes de la discrimination contraignant la déviation. Car les femmes qui se comportent selon les styles traditionnellement masculins sont perçues négativement par les hommes comme par les femmes. Si en revanche, les femmes conservent la voix féminine que la société sanctionne, elles s'écartent immanquablement de l'idéal vocal général de leur culture, capable d'exprimer le pouvoir et l'autorité, c'est-à-dire la voix masculine. J'aimerais bien maintenant procéder au prochain point, c'est-à-dire le comportement communicatif dans les groupes mixtes. Dans la communication immédiate, les facteurs langage, voix et d'autres mécanismes communicatifs agissent ensemble. Voyons quelques-uns de ces mécanismes communicatifs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'une discussion, qu'un entretien laisse généralement un souvenir positif si les partenaires ont réussi à développer une thématique commune. En théorie, cela exige que chacun accepte de collaborer dans une potentielle égalité de droits. Les violations fréquentes de cette règle, de cette condition, provoquent toutes sortes de malentendus, et cela indépendamment du sexe. Dans les groupes mixtes, l'hypothèse de l'égalité de droits semble être abolie. L'analyse de nombreuses discussions montre que les femmes sont responsables plutôt du maintien de l'échange, mais qu'elles ne sont pas responsables des contenus. La contribution au maintien de l'échange, c'est par exemple le nombre de sujets que les femmes doivent proposer. Mais ce sont les hommes qui décident du choix du sujet et de l'aspect sous lequel on l'abordera, et finalement sur l'évolution de l'entretien. Des constatations semblables peuvent être faites au sujet des interruptions. L'observation des relations de pouvoir dans les situations de communication orale, enseignées constamment qu'on n'y parle pas avant tout pour promouvoir une compréhension mutuelle, mais pour obtenir un certain effet social. Je vais expliquer cela. On a découvert que les femmes s'en tiennent beaucoup plus que les hommes aux règles communicatives reçues. Une de ces règles est, comme chacun sait, chacune aussi, qu'on n'interrompt pas, qu'on laisse finir l'autre. Si un seul groupe observe cette règle et pas l'autre, on obtient, consciemment ou non, un certain effet social. Les interruptions sont un des moyens les plus fréquents pour s'emparer du rôle de locuteur. Souvent, elles sont un signe que l'autre n'a pas vraiment écouté. Nous aurions donc pu tout aussi bien ne rien dire du tout. Notre discours a été vain. Toutes les interruptions n'ont pas la même signification. On peut distinguer les interruptions qui sont positives pour le développement de l'entretien et il y a des interruptions qui sont négatives dans le développement de l'entretien. Aux interruptions positives appartiennent par exemple les confirmations minimales qu'on fait tout le temps si on s'observe dans les discussions, dans les entretiens, du type d'accord, oui, ou même poser une question si on n'a pas compris. Ces interruptions surviennent généralement, et ça c'est important, doivent survenir au moment d'un changement possible de locuteur. Leur effet social signale une chance de se comprendre et de développer le sujet dans une direction positive. Il faut cependant prendre garde que même après une interruption de cette sorte, le thème est facilement abandonné. Vous pouvez compter plus que 50% des cas après une interruption, dans une intention positive ou non, le sujet change. Mais nous allons nous pencher maintenant sur les interruptions à fonction négative. On les appelle aussi interruptions profondes. Ce sont les interruptions qui privent gravement quelqu'un de son droit de parole, par le trouble qu'elles provoquent dans la progression cohérente de la pensée et de l'échange. Elles surviennent généralement, et ça c'est la différence entre les interruptions positives et négatives, elles surviennent généralement avant ou après un moment de changement possible de locuteur. Dans les groupes mixtes, la plupart des interruptions profondes sont le fait des hommes. Les interruptions tendent même à se multiplier lorsque les femmes veulent dire quelque chose qui leur importe dans leur perspective et dont les hommes devraient en fait tenir compte dans la suite de la discussion. Comme les hommes s'interrompent beaucoup moins entre eux, on peut conclure que la tendance à interrompre les femmes fait partie de l'attitude dominatrice des hommes. Pour se rendre compte de l'effet de l'interruption, il faut observer comment l'entretien continue après l'interruption et après la phase où plusieurs parlent à la fois. Il faut garder à l'esprit deux points de vue, celui de la victime de l'interruption et celui de son auteur. L'auteur de l'interruption augmente ses chances en parlant au-delà de la phase où les deux parlent à la fois et en mettant en même temps en jeu des mécanismes concurrentiels. Les plus courants de ces mécanismes concurrentiels, ce sont des répétitions et puis des ralentissements du débit. Si vous regardez une fois une discussion à la télé, vous pouvez facilement voir comment ça se fait. La victime, en revanche, donc les mécanismes concurrentiels. Avec cela, Le locuteur insiste sur son droit de parole. La victime, en revanche, augmente ses chances en cessant brusquement de parler, et cela avant la fin normale de la phase où les deux parlent. Ce silence subit signale qu'une règle communicative a été violée et que l'interruption est ressentie comme importune. Les hommes, entre eux, recourent volontiers à cette tactique. Après l'incident, l'homme victime de l'interruption réintroduit alors souvent son thème antérieur. En revanche, les femmes renoncent souvent à reprendre leur sujet. Elles se soumettent au changement de sujet et soutiennent même ensuite le nouveau sujet. Cela montre que, je cite, « les femmes contribuent surtout à la réussite des sujets masculins. En rétablissant sans le fonctionnement normal de l'entretien, non, en rétablissant le fonctionnement normal de l'entretien. » Fin de la citation. Interrompre, c'est donc souvent imposer son sujet. Qui impose son sujet domine l'entretien. La majorité des interruptions ont pour auteur un homme et une femme pour victime. Je viens aux confirmations minimales et aux pauses. Les interruptions ne sont pas le seul moyen